Voilà, bonjour à tous. Et effectivement, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Comme Kevin l'a dit, je viens de Belgique et je dois vous avouer que j'en suis extrêmement fier. Et ça, c'est l'avantage, hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Non, mais ça, c'est l'avantage quand on vient d'un petit pays, c'est qu'on peut ne pas se lasser de le dire. Quand on est d'un pays avec une histoire aussi chargée, aussi grande que la France, généralement, on est obligé de faire un petit peu preuve de pudeur quant à sa revendication. Mais vraiment, je suis fier d'être belge. Alors, quand même pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le pays qui a accueilli ma famille. En 1957, mes parents, qui ne se connaissaient pas encore, sont arrivés tous les deux en Belgique. Et ils ont été magnifiquement accueillis par ce beau pays avec cette magnifique culture. Et puis aussi... je suis fier d'être belge parce que mes parents ont été accueillis, et c'est là qu'ils ont découvert l'évangile par une magnifique église, l'église de la rue du Moniteur, pour ceux qui connaissent, l'église protestante évangélique de Bruxelles. Et c'est là que j'ai aussi découvert l'évangile de Jésus-Christ. Et ça a été pour notre famille, pour mes parents en tout cas, qui venaient quand même d'un arrière-plan plutôt défavorisé, on va dire. Ils ont fait l'expérience d'une lumière qui a bouleversé leur existence et celle de toute notre famille. Et je suis fier d'être aussi issu de cette grande famille chrétienne protestante évangélique de Belgique. Voilà. Alors, un petit mot aussi quand même pour remercier Thierry et Gilles qui m'ont donné là maintenant le flambeau pour poursuivre cette mission de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Merci aussi pour ce magnifique temps de louange qu'on a eu ce matin. C'était vraiment extraordinaire comme moment à passer ensemble dans la présence de Dieu. Voilà, bien vivre nos limites, c'est le thème qui m'a été proposé. Et je vous propose cette citation pour introduire notre réflexion. Préfère le silence et la solitude à l'activité d'aller nourrir des affamés. C'est une citation d'Isaac le Syrien, qui était l'évêque de Ninive au 7e siècle, et qui est considéré comme un des grands théologiens de l'orthodoxie en Orient, donc de l'Église orthodoxe d'Orient. C'est un auteur que j'aime beaucoup, un grand théologien. Et voilà cette citation un petit peu étonnante, troublante, et dans laquelle se cache, me semble-t-il, une grande vérité qu'il s'agira de comprendre ce matin. Parce que l'enjeu derrière la question des limites, c'est l'agitation. Ce sont nos compulsions de toutes sortes afin de réparer ou de consoler ce monde qui nous échappe, nous trouble et nous insécurise. Mais pour nous, les chrétiens, avant de nous y aventurer dans ce monde, à essayer d'y faire quoi que ce soit, il nous est demandé d'abord d'apprendre à se calmer, à se poser et d'apprendre ce que personne sur la terre n'est capable de faire. Et c'est ce que nous allons essayer d'apprendre ce matin. C'est d'apprendre à marcher sur l'eau. Il y en a qui participent à des grandes compétitions de toutes sortes, et Dieu sait qu'avec tous les écrans que nous avons aujourd'hui, nous sommes face parfois à des images absolument éblouissantes de performances de toutes sortes. Mais nous, les chrétiens, nous participons aussi à un sport de très très haute compétition. C'est ce sport que, pour l'instant, en tout cas, à part notre Seigneur, on a réussi à accomplir, c'est d'apprendre à marcher sur l'eau. Et c'est ce qu'il faudra apprendre à faire chaque jour un peu plus pour bien vivre ses limites. Parce que nous verrons que derrière la question des limites se lit en filigrane une grande question. Au fond, qu'est-ce qu'une vie humaine pleine ? Qu'est-ce qu'une vie pleine de sens dans un monde comme le nôtre ? Dans un monde qui brise nos cartes postales ? Et la question des limites n'est pas anodine. Parce que nous passons nos vies à les repousser, justement pour atteindre notre pleine capacité, notre plein épanouissement. Nous verrons pourtant que c'est en les accueillant que nous y arriverons. Voilà un petit peu à ce sur quoi nous déboucherons, accueillir ces limites comme un don. Mais comment ? Pour cela, il importe de remonter aux origines et de comprendre que dès le début, Dieu a structuré notre humanité en plaçant des limites. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans les deux premiers récits de la création. Si on ouvre nos Bibles, nous découvrons que tout débute par ce petit verset. Au commencement, Dieu. Voilà le point de départ de l'histoire, de notre histoire, de mon histoire. Voilà qu'un Dieu en dehors de notre histoire qui prend l'initiative et se met à parler. Et voilà qu'au son de sa voix, tout commence à bouger, à se mettre en place. De la lumière à la place des ténèbres, de l'ordre à la place du désordre. Chaque chose à sa place pour que tout devienne harmonieux. Le ciel, la terre, la mer, le rivage, des plantes, des arbres pour établir le cadre et l'espace, mais aussi la lune, les étoiles, le soleil pour marquer le temps, les jours et les années. Et puis la vie, les oiseaux, les poissons, les animaux, et enfin l'homme et la femme pour que règne l'amour et la justice. À l'humanité, en image de Dieu, est en effet confiée la responsabilité de prendre soin de l'ordre créé et de poursuivre le travail en développant le potentiel, tout en veillant à ce que l'amour, la beauté et la justice de Dieu soient en filigrane de toute cette réalité créée et transformée, pour que la gloire de Dieu rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Pour qu'à la fin, Dieu soit tout en tous à l'image d'un temple cosmique. Le ciel et la terre en pleine communion. C'est important que nous prenions conscience que l'alliance entre Dieu et l'humanité fonctionne comme une collaboration intime, un mariage pour qu'au bout, le règne de Dieu s'établisse sur toute la terre. Gardons ceci à l'esprit. La création s'inscrit dans un projet dont l'achèvement est d'être le reflet de la gloire du Dieu un. Et c'est ainsi que l'homme va être, sous le regard de Dieu, appelé à se structurer au milieu de cette création. Voilà ce que nous lisons à la fin de ce premier tableau. Dieu vit pardon, tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et un matin. C'est le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Arrêtons-nous sur ce passage qui clôture ce tableau, ce premier tableau de la création. Le septième jour, Dieu se repose et le transforme en un jour sacré, un jour à part. Vous l'aurez certainement remarqué, qu'on dit pour les jours qui précèdent, quelque chose qu'on ne dit pas pour le septième jour. Il n'est en effet pas dit, après le septième jour, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est important d'y être attentif. Parce qu'on pourrait penser, tiens, le septième jour, et puis après le huitième jour, plus ou moins tout se passe bien. Le neuvième, mince, la chute, et le dixième, on est au chapitre 4, et ainsi de suite. Ève qui tombe enceinte, et puis voilà. Non, le septième jour, peut-être pas le huitième jour, mais je voulais dire... le septième jour dans ce tableau semble appartenir à un autre temps. Un temps qui n'est pas de ce temps, qui ne ressemble pas à ce temps. Un temps, c'est vrai, dans lequel nous serons plus loin dans le récit explicitement invités à entrer, mais qui est dès le début posé dans le cadre créationnel, mais qui reste un temps qui demeure au-delà de ce monde. Parce que c'est important de le noter, c'est le jour où on y lit que Dieu a tout achevé. Ce qui peut sembler étonnant compte tenu de la suite de l'histoire, notamment au chapitre 2. Et je vous propose la lecture suivante, et on peut en discuter après si vous le souhaitez. Et si le sixième jour, c'était le temps de notre histoire, encore inachevé, voire plus loin meurtri que nous connaissons. Et que le septième jour, c'est le temps de Dieu, la plénitude du temps, qui demeure comme une invitation au-delà de notre temps, mais aussi comme une promesse. Un jour, Dieu achèvera, mènera son projet à son terme. Dès le premier chapitre, donc, Dieu révèle un autre temps que celui de l'histoire des hommes, le sien. Et ce sera le sens du sabbat promulgué dans l'alliance avec Israël. Nous lisons en effet en Exode 20. Souviens-toi, Israël, du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ça va devenir pour les Israélites, le Shabbat. Et ce Shabbat, qui est toujours pratiqué aujourd'hui par la communauté israélite, n'est pas un congé à l'occidental, où nous remplaçons des activités professionnelles par d'autres activités sportives ou ludiques. Non, non. Le sabbat, bien compris, c'est une qualité de temps qui, au-delà des notions de permis et d'interdit, est surtout considéré comme un jour hors du temps et des contingences matérielles. Un jour durant lequel toutes les activités extérieures doivent être réduites pour se concentrer sur la seule chose nécessaire. Le Dieu un, seul capable d'irriguer notre humanité et de la conduire à son plein accomplissement. Le sabbat, c'est le temps de la confiance en un Dieu qui achèvera ce qu'il a commencé. Quelle source de repos ! C'est le temps de la confiance en un Dieu qui achèvera ce qu'il a commencé. Dieu pose donc ainsi une limite à notre temps. Et je vous propose, parce que je vais utiliser l'expression un petit peu durant tout l'exposé, je propose que nous l'appelions chronos, qui est un terme grec, utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du temps physique, quantitatif, le temps qui s'écoule. Dieu pose donc ainsi une limite à notre temps, le chronos, afin de laisser une place à son temps, celui de l'alliance et de la communion, de l'achèvement et de l'accomplissement, que je propose que nous appelions kéros, qui en grec désigne le temps qualitatif qui donne de l'épaisseur, qui infuse l'accomplissement et l'éternité dans notre temps. Cela nous entraîne dans le second récit de la création, où l'on voit Dieu poser une limite qui concerne le centre de notre humanité. Quel est le seul centre, en effet, capable d'humaniser l'homme et la femme ? Dieu. Et on voit dans le récit qu'il y a un lieu dans le jardin au milieu duquel Dieu place l'homme et la femme, un lieu au centre du jardin qui symbolise la place que l'homme est appelé à laisser à Dieu. Et il y est représenté par 2 arbres. L'arbre de la vie qui symbolise la place centrale et vivifiante de Dieu. Et ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui exprime la suffisance de l'homme à penser qu'il pourrait mener à bien le projet créationnel sans Dieu. Et l'interdit de l'arbre de la connaissance que Dieu pose est une limite qui laisse à Dieu la prérogative de déterminer le sens profond de l'ordre qu'il a créé. Dieu doit donc être au centre pour que l'humain accomplisse sa vocation de roi et de prêtre, pour gouverner la terre et en prendre soin, la cultiver et la transformer. L'homme a besoin d'être pleinement aligné en Dieu pour pouvoir discerner, ce qui est juste et bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de nature entre Dieu et nous. Dieu est parfait en lui-même et est seul capable de libérer le sens ultime de la création. Inversement, la création et l'homme, par essence, n'existent pas par eux-mêmes. Les limites posées dans les récits de la création sont donc là pour laisser à Dieu la possibilité d'être Dieu dans le temps et au cœur de notre vie. Elles sont là pour structurer l'humanité dans l'alliance avec son Dieu en vue de la communion du ciel et de la terre. Malheureusement, cédant à la parole du serpent, du tentateur, le couple a brisé l'interdit, entraînant l'humanité à quitter le monde de la communion et du sens, le monde de la confiance et de l'achèvement, pour entrer dans celui de la solitude et de l'absurde. L'humanité va se retrouver ainsi sans limite, capable de le structurer. Et alors qu'elle pensait orgueilleusement devenir libre, elle va plutôt se retrouver enfermée dans le chronos, sans boussole, désorientée au fond d'elle, ne sachant pas discerner fondamentalement le bien du mal. Elle se retrouve également perdue dans un temps qui demeure en permanence inachevé. Il y a quelques années, je suis tombé sur un livre dans la bibliothèque de mon père, un vieux livre absolument, sans grande importance. Il avait été écrit par un pasteur du 19e siècle qui a exercé son ministère en Alsace, et je crois que mon père avait dû l'acheter lors d'une brocante. Et ce livre de ce pasteur, qui est absolument inconnu au bataillon, j'ai été voir sur le net, c'est un livre qui a dû être édité à très peu d'exemplaires, et on y retrouvait une série de ses prédications. Et je suis retrouvé sur un des extraits d'une de ses prédications, et voilà ce que j'ai lu, et qui illustre un petit peu ce que j'essaie de vous partager. Il parle de l'humanité en Adam. Le fond de notre cœur et de notre faiblesse, c'est la tristesse. Cette tristesse qui, comme une sombre vapeur, monte de notre âme avec nos convoitises et nos remords, qui est pleine d'ennui, d'aigreur et d'agitation. Cette tristesse qui s'en va répétant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus ?» Cette tristesse qui se vante, qui se plaint, qui gronde, qui jalouse, qui désespère, qui nous élève au plus haut désert pour nous faire retomber au plus profond des abîmes. Et que Satan prend là comme une pierre pour nous écraser, pour nous dire, comme on dit en enfer, « Il n'y a plus d'espérance. Tu es perdu, irrévocablement perdu. » Cette tristesse paralyse toute notre énergie, interdit toute fécondité, empoisonne notre vie et finit par tuer notre âme et notre corps. Et c'est vrai, l'humanité en Adam ne cesse de se poser les questions suivantes. Qui sommes-nous ? Elle se sent perdue au milieu de cette vie, dans cette immensité du temps. Qui ne s'est jamais perdu dans ses pensées en pensant au temps qui serait derrière nous ? Des millions, des milliards d'années. Les dinosaures, nous disent les scientifiques, auraient régné sur la Terre pendant 150 millions d'années. On en perd la tête. Notre temps à l'échelle de la grande ligne de l'univers se réduit à une poussière. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont lu ce livre « Homo sapiens » de Harari. Peut-être vous ne l'avez pas lu, mais je suis sûr que vous l'avez au moins croisé une fois en librairie. C'est un livre qui a un succès planétaire énorme. Il est écrit donc par un Israélien qui s'appelle Harari. Barack Obama, notamment, en a fait les plus grands éloges. Et tous ceux qui le lisent, bien souvent, c'est un livre absolument à lire. Et je l'ai lu, en tout cas en grande partie, jusqu'à ce qu'il m'énerve un petit peu. Et je dois avouer qu'il est passionnant à lire. C'est un livre qui raconte l'histoire de l'univers et puis au milieu, la petite cacahuète et la petite poussière qu'est l'histoire de l'humanité. Alors, il est passionnant à lire, j'en conviens, mais il est surtout extrêmement inquiétant et au bout, dangereux. C'est un livre extrêmement anxiogène, où tout devient d'un relativisme inquiétant. Et nombreux sont les commentateurs, pas nécessairement chrétiens, qui ont remarqué que c'est un livre qui, au bout du compte, en filigrane, avance des idées qui potentiellement sont super dangereuses. Par exemple, pour lui, les droits de l'homme, c'est très bien, mais c'est un mythe. C'est une illusion qu'on s'est inventée pour se dire on vivrait peut-être mieux comme ça ensemble. Mais fondamentalement, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais voilà ce sur quoi débouche une humanité qui perd, d'une part, son centre fondateur et d'autre part, le temps de Dieu. Tout devient relatif et au bout absurde parce qu'inachevé, tout se perd dans l'échelle du temps, comme une poussière sur laquelle on soufflerait. Privé de sa dimension transcendantale et donc privé de sa substance essentielle, l'humanité ne sait plus fondamentalement qui elle est, ni d'où elle vient, ni ce qu'elle veut, ni où elle va. Et pour contrer cette angoisse de finitude et d'insignifiance, nous nous agitons pour nous trouver un lieu de repos plus ou moins sécurisé, essayant de consommer de façon toujours un petit peu plus effrénée. Nous recherchons des expériences toujours plus ultimes dans la nourriture, le sexe, le sport. Ou alors nous nous engageons dans l'humanitaire pour essayer de réparer ce monde étrange et injuste. En fait, nous sommes effrayés par notre néant. Je vous cite un extrait d'un autre livre, ou plutôt le quatrième de couverture, dans un livre qui s'appelle « Le culte de l'intensité », qui dépeint un petit peu la société dans laquelle nous vivons. De l'amour au chocolat, tout se doit désormais d'être intense. L'homme électrisé ne se vit plus dans la recherche d'un absolu, mais dans l'horizon d'une intensification maximale de son existence. Devenue valeur imposée, une telle quête demeure paradoxale dans la mesure où l'intensité tend à se perdre sous l'effet de son contraire, la routine. Condamné au toujours plus pour tenter de contrer cette dernière, le sujet humain, au bord de l'explosion, découvre un nouveau mal de siècle, le burn-out. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est l'ennui. Tout, mais pas la routine et le temps sans épaisseur, extrêmement angoissant. Et au bout, cette pleine communion à laquelle nous aspirons, ce sens profond qui nous dit quelque part que cette vie devrait valoir la peine d'être vécue, nous échappe toujours. Et le culte de l'intensité donne aussi lieu un autre culte, le culte de l'urgence. Je vous cite, « Certains, shootés à l'urgence, ont besoin de ce rythme pour se sentir exister intensément. Dans d'autres cas, le climat de pression est tel qu'il corrode les individus qui déconnectent brutalement ou sombrent dans la dépression. Plus globalement, que ce soit dans le domaine de la famille, de la quête spirituelle, des modes de thérapie ou même de la littérature, le règne du temps court supplante celui du temps long. » Dans une société fonctionnant souvent sur l'unique registre de la réactivité, se dessine ainsi le visage d'un nouveau type d'individu, flexible, pressé, collant aux exigences de l'instant ou à la jouissance qu'il procure, et cherchant dans l'intensité du moment une immédiate éternité. On voit le grand écart entre ce temps long, les millions, des milliards d'années, et ce temps extrêmement court que nous cherchons à poursuivre, qui nous donnerait l'illusion de croire que peut-être notre vie vaut la peine d'être vécue. Et plus que jamais, les moyens de communication et autres avancées technologiques aidant, l'homme est en quête de la profondeur du temps qui passe, en quête d'un kéros qui achève, qui répare, qui réoriente. Et certains artistes autour de nous expriment ce cri. Qui nous dira ce qu'on fait là, dans ce monde qui, au bout, ne nous ressemble pas? Les limites que Dieu avait posées étaient des fenêtres sur une communion et un sens ultime. Mais les hommes les ont perçues comme une menace et les ont rejetées. Et on s'inquiète, n'est-ce pas? En se demandant à quoi ressemblera notre monde dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans. Mais quand même, c'est intéressant de constater que dans le récit biblique, Dieu continue de poser une limite. Et on voit au chapitre 11 qu'il va poser une limite au mal. Et ça peut aussi nous remplir d'une certaine confiance. Avec le chapitre 11 et le récit de la tour de Babel, on voit Dieu qui stoppe les systèmes qui prennent trop d'ampleur. Parce qu'au bout, ils finissent toujours par être extrêmement déshumanisants. Et on peut le voir à l'échelle de l'histoire de l'humanité, toutes ces grandes civilisations qui, au bout du compte, finissent par s'écrouler. Les empires et plus récemment le nazisme. Dieu pose une limite pour laisser un espace à son projet de salut pour l'humanité. Et on se demande comment Dieu va pouvoir retrouver sa place au sein de cette humanité un petit peu folle. Et nous le savons, en suivant le récit biblique, Dieu va appeler un homme, une famille, un peuple, à qui il va réapprendre à retrouver le centre et la confiance, afin que, au travers de cet homme, cette famille, ce peuple, toutes les nations puissent être éclairées. Mais comment Dieu va-t-il s'y prendre? Quelle va être sa pédagogie? Comment Dieu pourrait-il retrouver sa place au centre de notre vie et nous faire cheminer dans cette confiance qu'il achèvera ce qu'il a commencé? Et c'est maintenant qu'il faudra apprendre à marcher sur l'eau. Alors, marcher sur l'eau, vous connaissez l'image dans les évangiles, hein, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Alors, l'eau, la mer, dans la représentation biblique, représente le lieu du chaos, des forces du mal, des angoisses, des peurs. Vous savez, tout ce qu'on peut, au fond de soi, parfois aussi sentir, hein, comme un gouffre au fond de nous quand on a du mal à s'endormir, tout ce qui pourrait nous engloutir. Et voilà qu'on voit Jésus qui marche sur l'eau. Il ne se laisse ni engloutir par la peur, le stress, l'agitation, l'amertume, les fausses consolations, la violence. Et on le voit dans le récit biblique, marcher sur l'eau, c'est marcher avec Dieu. C'est lui laisser reprendre sa place pour notre salut, mais aussi pour qu'au travers de notre salut, la gloire du vrai Dieu se révèle sur toute la terre. Alors, en découvrant le récit biblique, on voit que le premier homme à qui Dieu appelle, c'est Abraham. Et voilà qu'Abraham va devoir apprendre à marcher par la foi. Il devra réussir l'épreuve du manque, de l'insécurité, et au bout être capable de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Il devra apprendre à ne pas paniquer. Et on va le découvrir que c'est de la haute compétition. Et on appellera ça la pédagogie du manque. Alors retenez bien l'expression parce qu'elle va revenir à plusieurs reprises. Marcher sur l'eau, c'est consentir au manque afin de retrouver son centre fondateur, la parole de Dieu, et apprendre à faire confiance que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et je vous propose trois exemples. Donc, dans l'Ancien Testament, avec Abraham, à qui Dieu promet une vie pleine. Mais pour cela, Abraham va devoir apprendre à faire confiance, à intégrer le temps de Dieu. Il va devoir apprendre à ne pas se crisper, ce qui est très difficile pour un être humain. On le voit en Genèse 12, Abraham arrive sur le pays que Dieu lui a promis, et qu'est-ce qui se passe tout de suite? Pouf, une famine. Eh bien, dis donc. Et que fait Abraham? Il se crispe et il descend en Égypte. incapable de consentir au manque. Et c'est important d'être attentif à cela. Notre réaction au manque, c'est toujours l'évitement du manque. Abraham, ok, on va recommencer. Calme-toi, je vais te réenvoyer dans le pays. Et vous allez voir que c'est un petit peu le pharaon quasi qui l'y repousse. Abraham, tu vas devoir apprendre à me faire confiance. Idem pour la promesse d'une descendance. Alors ça, sur le coup, c'est plutôt une énorme limite, n'est-ce pas ? Celle de son épouse Sarai, très âgée, et leur stérilité. Et là aussi, ça va être l'apprentissage de la confiance. Après toutes les manœuvres pour contourner, Abraham doit se laisser dépouiller de tout désir de maîtrise. Il doit faire l'expérience du manque et de l'insécurité afin de s'ouvrir au temps de Dieu. Il doit se recentrer sur les promesses et apprendre la confiance. Et il lui faudra toute une vie pour se retrouver pleinement entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham, considéré comme le père de tous les croyants, il a eu la foi dans les promesses de Dieu. Et il nous apprend à marcher par la foi. Il nous apprend au bout du compte à accepter nos limites, à réussir l'épreuve du manque et à nous recentrer sur les promesses de Dieu et nous ouvrir à la confiance de Dieu. J'ai un livre à la maison dont le titre est le suivant, « Abraham ou l'histoire d'un dépouillement ». Un autre exemple, c'est les Israélites dans le désert. Il y a aussi quelques récits un petit peu, alors je les appelle drôles, mais ils ne sont pas drôles pour ceux qui les vivent. C'est Israël qui traverse la mer Rouge, et voilà qu'ils sont extrêmement heureux. Et puis le verset qui suit, c'est « Et ils allèrent dans le désert de Chour, et ils se retrouvèrent sans eau après 3 heures de marche. » Et on voit toute la pédagogie de Dieu de conduire son peuple dans une limite extrême afin de les dépouiller de tout artifice, afin qu'ils expérimentent le manque et soient capables d'entrer dans une confiance totale en Dieu. Et puis il y a le récit du don de la manne. Chaque jour, la quantité nécessaire. Et puis évidemment, la réaction, hein, parce qu'on a peur de manquer, on va absolument essayer d'être dans le contrôle, de prendre un petit peu plus, même si Dieu avait dit qu'il fallait juste prendre la quantité nécessaire. Non, on va quand même s'assurer que, quand même, on ne sait jamais. Voilà, vous voyez là l'exercice. La foi, c'est apprendre à marcher sur l'eau. C'est la pédagogie de Dieu qui veut amener son peuple à son point intérieur le plus insécurisant, afin qu'il rende à Dieu la place qui lui revient. Je pourvoirai, je prendrai soin de toi. Et dans l'Écriture, le désert n'est pas un lieu d'errement et du temps perdu, c'est le lieu de la transformation par excellence. C'est le lieu où Dieu nous conduit hors de notre zone de sécurité et de maîtrise afin qu'il puisse prendre toute sa place. Mais ces limites posées par Dieu sont tellement inconfortables qu'Israël réagira toujours au bout, en Adam, par des mécanismes d'évitement du manque. S'il en a la possibilité, il finira toujours par se raccrocher à une bouée. L'homme, dans sa condition d'Adam, ne résiste pas à l'épreuve du manque. Sauf quand il n'a plus le choix. Il y a un magnifique épisode, alors je fais la version courte, hein, mais ceux qui sont pasteurs ou qui ont l'habitude de prêcher, d'enseigner, c'est un magnifique récit. C'est 1 Samuel 30. Vous connaissez peut-être David qui se retrouve à un moment dans sa vie où c'est la catastrophe la plus totale. Il avait voulu se joindre aux ennemis d'Israël pour contrer Saül. Et puis voilà que ça ne se passe pas très bien. On lui dit non, c'est bon, rentre chez toi avec ses 400 hommes. Il retourne dans son camp, sa base arrière, et voilà qu'ils découvrent que le camp, avec leurs femmes et leurs enfants, a été saccagé, détruit. Et le texte biblique dit qu'ils avaient capturé, donc les Amalécites, les femmes et tous ceux qui y étaient, petits et grands. Ils n'avaient mis à mort personne, mais les avaient emmenés avec eux. Et David et ses hommes arrivèrent à la ville et découvrirent qu'elle était incendiée. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Une vraie situation d'extrême limite. Que faire ? Voilà le temps de la détresse et du manque. Et regardez le verset suivant, juste après ce que je viens de dire. Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Je n'ai pas lu le texte qui précède, excusez-moi, il y en avait encore un. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et puis on a ce verset-là. Et c'est là que David va expérimenter le plus grand turnover. Il va puiser sa force dans le Seigneur. Il retrouve son sens, son centre, la promesse de Dieu. Et il s'abandonne. Et je vous invite à lire la suite du récit. Il va récupérer tous ceux qui avaient été emmenés captifs. L'expérience de la limite ou de l'épreuve peut devenir un don de Dieu, une occasion pour Dieu de retrouver son centre et de conduire notre vie à son plein achèvement. Mais en Israël, le kéros ne s'installe jamais. Et le royaume de Dieu ne peut pas être inauguré. Le temps d'une plénitude totalement offerte à tous demeure une promesse inachevée. Aucun roi ne résiste durablement à l'épreuve du manque. Qui pourra faire venir le kéros sur la terre? Il faudrait quelqu'un qui puisse assumer tout le temps, jusqu'au bout, toute la place à Dieu. Quelqu'un capable d'assumer pleinement les limites humaines et résister aux sirènes du contrôle, de la convoitise. Quelqu'un capable de consentir au manque et à l'insécurité et entrer dans cette pleine confiance en Dieu et ainsi pouvoir inaugurer le règne de Dieu sur la terre. Quelqu'un qui serait transparent à la gloire de Dieu. Et voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Marc. Jésus, au début de son ministère, dit « Le temps, le kéros, est accompli. » Et le règne de Dieu s'est approché. En Jésus, le temps de Dieu et le temps de l'homme se mêlent, ne font qu'un. Et il y a plusieurs images fortes qu'on peut lire dans les quatre évangiles. Je pense à cet épisode avec Jaïrus, que vous connaissez certainement, qui se retrouve enfermé dans le temps chronos et dont la fille est à l'extrême limite de la mort, en pleine panique. Il se jette aux pieds de Jésus. Et Jésus ne se précipite pas pour agir. Il n'entre pas dans l'agitation de Jaïrus. Il marche sur l'eau. Il ne se laisse pas engloutir par la peur, les forces du contrôle. Il ne cède pas aux sirènes du chronos. Il habite, lui, un autre temps. Il est ancré, enraciné. Idem avec l'épisode de Lazare dans l'évangile de Jean. Vous savez, le chronos, c'est le temps de l'agitation. Le kéros, c'est le temps de la confiance et de la plénitude qui s'approche et qui nous dit « Sois en paix, n'aie pas peur. » Jésus est dans un autre temps, il est dans le temps eschatologique. Jésus est le maître du sabbat, il est le maître de la profondeur du temps, de la plénitude du temps et de l'achèvement du temps. Il ne se laisse pas manger par les tentations du chronos. Et on le voit tout spécialement avec le récit de la tentation qui montre combien Jésus refuse la tentation de l'évitement du manque. Par contre, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et face à l'adversaire, il va dire « Ce n'est pas de pain seul que l'homme vit. » On voit bien où Jésus a son centre, il a son centre dans le Père Céleste. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la tentation, mais nous savons que, n'est-ce pas, Jean n'utilise pas les mots par hasard. Mais il y a un épisode très très court qui me fait penser à l'épisode de la tentation. Et ce petit épisode très très court, un verset se trouve au moment le plus important de la vie de Jésus, au point culminant de son histoire. Regardez Jésus qui se retrouve sur la croix. Jean 19, « Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif. » Et il y avait là un récipient plein de vin aigre, et on fixa à une tige d'hysope une éponge imbibé de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vin aigre, il dit « Tout est achevé. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Une autre traduction, c'est Jésus, sachant que tout arrivait à son plein accomplissement, dit « J'ai soif ». Jésus a soif, il brûle de soif, tout son corps agonise de soif. Il est en train de mourir de soif. Il est là sur la croix et tout son être s'épuise dans le manque. Il expérimente le manque le plus total, il est entièrement livré à la grâce de Dieu. Il dépend entièrement de Dieu. Que se passe-t-il en fait ? Jésus consent au manque, mais en fait il résiste à la convoitise, à la tentation du péché, au pouvoir du mal. Il offre une parfaite humanité, totalement ouverte. Il a résisté à la tentation de l'arbre de la connaissance. Il est demeuré dans l'alliance, les yeux fixés sur son Père. Alors, ce qui se passe précisément nous échappe toujours, hein, un peu. En mourant sur la croix, Jésus accomplit le parfait sacrifice et réconcilie le ciel et la terre, Dieu et l'humanité. Frères et sœurs, nous disons à raison que Jésus est Dieu, mais il est aussi l'un des nôtres. C'est l'un de nos fils. Et il nous représente. Il est là sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Par sa mort et sa résurrection, l'arbre de la vie est à nouveau planté, définitivement cette fois-ci sur la terre des hommes. L'humanité en Adam est morte. Une nouvelle façon d'être humain est possible. En détruisant la puissance du péché, Jésus ouvre les portes du septième jour et il dit « Tout est accompli, tétélestai » ou « Tout est achevé ». Dans le passage, « téléto », le terme grec, revient à trois reprises alors. Comme le disent souvent les spécialistes, dans un texte, lorsqu'un verbe revient à trois fois, c'est qu'il donne le sens du récit, du discours. Et « téléto » signifie « être complet, être achevé, être en plénitude ». Et il me semble que cette expression, on peut la mettre en lien avec le passage en Genèse 2. Dans la Septante, traduction grecque de la Bible, c'est le même verbe. Tout est achevé. En Christ, l'humanité est conduite à son achèvement. Qu'est-ce que cela signifie ? Mes frères et sœurs, nous ne devons plus avoir peur de nos manques. Nous ne devons plus avoir peur de nos limites, de nos échecs, de notre péché, de nos blessures. En Jésus-Christ, dorénavant, toute notre vie peut être transfigurée. Il n'y a plus de malédiction. Nous pouvons nous aussi consentir à nos limites, à nos manques, et trouver notre centre dans la croix de Jésus-Christ, porte d'entrée de notre résurrection. Je vous laisse cette belle citation, me semble-t-il, de Jean Vanier. Jésus souffrant nous fait entrevoir le grand mystère de la souffrance humaine. Chacune de nos souffrances, chacune de nos blessures, chacune de nos fragilités, tout ce qui en nous est cassé, toute notre peur d'être rejeté, de ne pas avoir de place, toute notre angoisse, toute notre confusion, toute notre difficulté de vivre peuvent devenir source de vie quand nous les unissons à la croix de Jésus et à sa résurrection. Alors nous ne devons pas être en colère contre nos blessures, contre nos parents, contre la société, contre ceux qui nous ont fait du mal. Mais nous pouvons découvrir avec Jésus que toute cette souffrance n'est pas inutile, qu'il est comme un fumier qui améliore la terre et la fait fructifier, que rien de tout cela n'est perdu, mais que Jésus reprend tout, l'accueille en lui, le transforme pour en faire une puissance de vie. Pour autant que nous rendions les armes et que nous consentions au manque, ayant la foi qu'en Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Et avec cette confiance que ce que le Christ commence en nous, ce qu'il dépose en nous, il le mènera à son terme. Le kéros de Dieu en Jésus-Christ peut dorénavant faire irruption dans notre vie. On arrive tout doucement à la fin. Plus concrètement, comment bien vivre avec nos limites? Comment concrètement apprendre à marcher sur l'eau? Accueillir ses limites comme une occasion pour Christ de prendre sa place. C'est légitime, mais nous avons tendance à nous crisper face aux limites de notre vie. Nous les vivons comme un obstacle. Et c'est vrai, à un moment ou l'autre, il faut bien intégrer que nous ne savons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Nous restons vulnérables. Nous ne pouvons pas tout contrôler. À un moment ou l'autre, nous finissons par échouer. Nous connaissons des circonstances difficiles. Le corps qui ne suit plus, la maladie, le handicap, un mariage difficile, une situation professionnelle difficile, ou alors des incompétences, des carences, ou alors un trouble identitaire. Vous savez, tout ce qui fait le lot de nos vies selon nos circonstances et nos choix. Pour bien vivre nos limites, il faut apprendre à les accepter. À les accepter comme une occasion pour le Seigneur de prendre sa place. C'est un mot important. Acceptation, accepter. On confond souvent acceptation avec résignation, fatalité ou destinée. Et je n'aime pas trop l'idée Dieu l'a voulu ou c'est ainsi parce que Dieu l'a voulu. Laissons une place au mystère autour de toutes ces questions de pourquoi certaines choses arrivent à l'un et pas à l'autre. Accepter ne veut pas dire Dieu l'a voulu ainsi. C'est plus subtil que ça. Accepter, c'est pas se résigner. C'est tout simplement d'abord accepter que la mort et le mal font partie de la vie. C'est accepter que nous sommes pécheurs. C'est accepter que vivre fait toujours mal quelque part. C'est apprendre à ne pas vivre dans le déni. Mais c'est surtout au bout du compte prendre conscience qu'en Christ, cette circonstance de vie, cette situation, elle peut être offerte à Dieu telle qu'elle est. Je vous donne un exemple. Il y a pas loin de 2 semaines, on était à un camp et il y avait un jeune qui souffrait d'un retard mental, qui avait un certain âge. Et on a vite compris que pour les parents, et Dieu sait qu'on peut les comprendre, ils avaient du mal à accepter d'avoir eu un enfant avec un handicap. Ils ont composé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais au fond d'eux, il y avait encore toujours cette blessure ouverte. Mais pourquoi, Seigneur? Une colère. Ils ont pourtant fait ce qu'ils pouvaient, mais l'enfant a ressenti toutes ses émotions. Et il a compris qu'en fait, il avait brisé la carte postale de ses parents. Je le dis évidemment avec toute humilité, mais ses parents auraient dû découvrir à un moment que cette situation, Dieu pouvait la transfigurer et que ce qui pouvait être une limite ou une circonstance qui casse, elle pouvait devenir un lieu où la puissance de Dieu pouvait se déployer. C'est important d'accepter, de se réconcilier avec les événements et les circonstances de sa vie. J'accepte que mon mariage est difficile. Je parle en général. J'accepte de porter des traumatismes liés à mon enfance. Je ne veux plus être dans le déni ou dans l'illusion que je pourrais me faire de moi-même. J'accepte peut-être que j'ai un problème avec la colère. J'accepte que j'ai une identité sexuelle désorientée. J'apprends à nommer toutes ces limites, toutes ces contraintes. Tant qu'une blessure n'est pas nommée, elle continue de saigner. Accueillir ses limites. Et ensuite, il faudra apprendre à consentir au manque. J'accepte que cette situation me fait mal. J'accepte le manque qu'elle génère et je l'accueille. Je ne l'évite pas. Parce que l'enjeu, au bout, c'est d'apprendre à ne pas paniquer. Chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai des images de gens qui sont torturés. Et je me dis, Seigneur, je serais incapable de survivre à la torture. Et j'apprends à me détendre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas trop mal. Mais cette idée de ne pas se crisper, de rester dans la confiance et de regarder le Seigneur. Évidemment, on a vite envie de se raccrocher. Donc c'est pour ça que je parle avec beaucoup d'humilité en prenant l'exemple. Mais c'est cette idée d'apprendre à ne pas paniquer. C'est là qu'on apprend à marcher sur l'eau, à ne pas basculer dans l'agitation, le bricolage, le rafistolage. Parfois même, c'est apprendre à faire l'expérience de l'impuissance. Vous savez, Dieu n'embraye pas dans notre immédiateté. Il a besoin pour prendre sa place que nous consentions au manque. Il veut qu'au bout du compte, nous puissions apprendre à marcher sur l'eau. Vous savez, c'est une pédagogie qu'on connaît bien. Hein. Si vous voulez apprendre à vos enfants à nager, par exemple, à maman, il faut qu'ils aient une petite sensation de panique. Pour que, voilà. Mais la confiance en Dieu, c'est aussi celle-là. Vous allez me dire, mais comment y arriver? C'est impossible. Les trois étapes, notamment, sont centrales. Le défi, c'est d'apprendre à trouver son centre en Christ et entrer dans cette confiance totale. C'est de la haute compète, hein, j'avoue, mais on est là pour apprendre. Cette démarche de consentir au manque n'est possible que si on travaille à son centrement sur le Christ et qu'on demeure dans cette confiance. Comme Pierre qui marche sur l'eau, il doit rester les yeux fixés sur le Christ. Et effectivement, dès qu'il va voir cette eau qui commence à monter, il panique et il coule. Elle est magnifique. Cet épisode est magnifique. Jésus, il va avec beaucoup de tendresse. Parce que Pierre va lui dire, au secours, Seigneur. Et Jésus le reprend. Et puis après, il lui dit, Pierre, tu as manqué de foi. Il ne lui a pas d'abord dit, tu manques de foi pendant qu'il coule. Non, d'abord il l'a relevé. Pierre, prochaine fois tu y arriveras, j'en suis sûr. Pierre doit rester les yeux fixés sur Jésus. Ne pas paniquer. Dieu pourvoira en son temps. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Alors moi, j'étais impressionné quand même par l'épisode de Gilles hier, son expérience avec son ami. Alors moi, je trouvais qu'il marchait sur l'eau. Là. Pendant 10 minutes, il a marché sur l'eau. Enfin, en tout cas, au moment où il a prononcé cette prière. Mais c'est ça. L'évangile, ce n'est pas de la rhétorique seulement. C'est une puissance qui est donné, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est une réalité qu'on peut expérimenter dans sa vie. Et quand on en fait l'expérience, une fois, deux fois, parce qu'on ose cette épreuve du manque, et on découvre qu'en fait, mais je marche sur l'eau, je n'ai plus peur. Mes frères et sœurs, s'enfermer dans le chronos, c'est être condamné à l'agitation, à l'inquiétude, au contrôle et au substitut. Et les disciples de Jésus doivent apprendre à exceller. Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, s'il me faut être fier d'une chose, c'est de ma faiblesse. S'il me faut être fier d'une chose, c'est de toutes ses limites. Car le Seigneur Jésus, dira-t-il après, 2 Corinthiens 13, 4, car le Seigneur Jésus a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit en vertu de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui en vertu de la puissance de Dieu, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il y a une jolie chanson de Jean-Jacques Goldman, qui dit « C'est ta chance ». Alors c'est un petit peu la même idée, mais en version sécularisée, hein, sans le Christ, mais c'est un peu la même idée. C'est ta chance. Toutes tes limites, tout ce que tu crois est un obstacle à la vie pleine à laquelle tu aspires, peuvent devenir une occasion d'un déploiement de la puissance de Dieu. Dieu peut transfigurer ta vie et Dieu sera glorifié aux yeux des nations. Alors je reviens à ma citation bizarre. Quand même, vous êtes demandé, mais qu'est-ce que cette situation un petit peu bizarre, hein ? Préfère le silence et la solitude à l'activité d'aller nourrir des affamés. C'est un peu de la provoque, hein ? Vous avez bien compris ? Enfin, la provoque, d'une façon d'être un peu troublé. Mais d'abord, prends bien soin d'être fortifié par l'Esprit de Dieu avant de t'aventurer à essayer de réparer le monde. Et c'est là, comme l'a dit Pierre hier, qu'on verra qu'une église, l'église de Jésus-Christ, elle est quand même un level au-dessus, méchamment au-dessus. L'église, elle marche sur l'eau. Nous ne sommes pas là pour sauver le monde avec les armes du chronos. Nous devons y entrer avec le kéros. La spécificité chrétienne est d'entrer dans le marasme du monde en étant capable de marcher sur l'eau. Il s'agit d'infuser dans le monde d'aujourd'hui déjà le monde de demain. Nous vivons, nous les chrétiens, dans le septième jour, confiants que Dieu a son temps et a son heure. Et nous apprenons chaque jour un petit peu plus à nous centrer, à être ancrés et à ne pas paniquer devant des situations potentiellement anxiogènes. C'est mon dernier mot. Plus ma vie dans le chronos se rétrécit, plus elle est une occasion offerte à l'œuvre de Dieu, son kéros qui plante toujours plus profondément sa croix et sa résurrection au cœur de ma vie et m'ancre dans sa confiance, qu'il l'amènera notre vie à son plein achèvement. Voilà comment bien vivre nos limites. Voilà comment Dieu sera glorifié dans nos vies. Voilà comment nos limites révéleront la gloire de Jésus-Christ. Je propose de prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous devons te confesser que bien souvent nous nous agitons, nous basculons dans l'inquiétude, nous voulons tout contrôler, ou alors nous mettons notre tête dans le sable, et pourtant tu es là, tu nous accompagnes et tu nous attends dans un autre temps. Le temps de la confiance, le temps de l'éternité et de ton règne. Seigneur, apprends-nous à pouvoir marcher sur l'eau, sur les eaux agitées parfois de notre vie. Apprends-nous à garder les yeux fixés sur toi. Apprends-nous à accueillir toutes nos limites comme des occasions pour que tu puisses transfigurer nos existences. Sois béni pour ton œuvre en Jésus-Christ. Sois béni, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.